Bonjour tout le monde. Je suis dans la joie de d'être devant vous maintenant, d'être avec vous pour partager quelque chose. C'est partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mes amis, Dieu nous aime. C'est ça mon message aujourd'hui. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous a tout donné. Tout ce que nous avons vient de lui. Mais Dieu nous demande aussi de le remercier. Est-ce que nous le faisons assez? Des fois, quand nous prions, nous disons merci. Mais est-ce que nous le remercions assez? Est-ce que nous le remercions suffisamment par rapport à tout ce qu'il nous donne? Parce qu'il nous donne tout. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu, qui nous a tout donné jusqu'à nous donner son Fils qui est mort pour nous. Mais nous allons voir aussi le rôle que nous devons jouer dans le sens de lui être reconnaissant. Nous lisons dans Luc 17, versets 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Je vais lire. C'est l'histoire de la guérison des 10 lépreux. Verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Mais pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: Mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi. Va, ta foi t'a sauvé. Mes chers amis, ça, c'est un message que nous avons peut-être entendu plusieurs fois, mais la Bible, c'est un livre extraordinaire. À travers un même texte, on peut avoir plusieurs messages. Quand vous voyez ce que vous avez dans la Bible, en tout cas, Louis II, le titre, c'est le Dieu des prêts. Je crois que le message que nous avons toujours entendu dans notre vie, c'était ce miracle que Jésus a fait de guérir 10 lépreux. Mais on ne s'attache pas beaucoup d'importance sur, ou on n'attache pas beaucoup parce que les lépreux ont été guéris, mais on voit que sur les 10, il y a seulement une personne qui a décidé de revenir pour dire merci. Et le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est comment dire merci à Dieu. Pourquoi dire merci à Dieu? Qu'est-ce que ça nous rapporte de dire merci à Dieu? Ce matin, je suis dans mon introduction de prière. Il a commencé par le mot merci. Et c'est comme ça que nous devons toujours prier. En priant, nous devons toujours commencer par remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Nous verrons de cette réflexion que je vais faire, que nous ne le faisons pas parce que nous devons le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons comprendre le sens même, la signification même de merci. Hein? Dire merci, c'est un geste de reconnaissance. Et nous allons voir ce que cela signifie réellement. Le verset 15 à 17, en fait, il nous montre que s'il y a une seule personne sur 9, sur 10 qui revient. Ça montre clairement que dans la vie où nous tous recevons des bienfaits de Dieu, mais qu'il y en a très peu. Bon, ici on donne l'exemple de 1 sur 10, ça veut dire 10%. 10% c'est peu, mais dans la vie, on peut voir même que c'est même des gens qui osent, qui disent merci à Dieu, qui le remercient, ils sont même moins de 10%. Parce que nous tous, nous recevons des bénédictions, nous recevons des bienfaits de Dieu. Mais les personnes qui reconnaissent que ce qu'ils reçoivent, ce n'est pas donner les efforts, c'est parce qu'ils méritent ça et que c'est la grâce de Dieu qui leur a donné ça, ils sont vraiment très peu. Donc, la première leçon que nous tirons de ce chapitre, de cet extrait, c'est qu'il y a très peu qui, réellement, reconnaissent que ceux qui ont reçu le salut de Dieu et qui doivent dire merci. Au verset 17, nous voyons, et les 9 autres, où sont-ils? Si vous lisez ça tranquillement, vous verrez que Jésus n'était pas content de cela. Parce qu'il avait vu 10 personnes, 10 lépreux, qui venaient demander quelque chose et qui l'ont reçu. Il y a 9 qui, enfin 9, il y a une seule personne qui revient et lui dit, mais vous étiez 10 et toi tu viens seul. Où sont les 9 autres? C'est une sorte de, oui, de, pas de choses, une sorte d'étonnement. D'étonnement, il était de voir qu'il y a de l'ingratitude envers les hommes parce qu'ils reçoivent les bienfaits, les bénédictions, mais il dit, mais vous étiez 10, où sont les 9 autres? Ce qui montre une ingratitude des hommes. Verset 9, et ça c'est un verset qui est très important pour moi, il dit, bon, je le lis comme c'est écrit au verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y a 3 choses. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous allons comprendre ce que ça signifie. Quand Jésus dit, lève-toi, ça veut dire que merci à toi. En fait, c'est le droit de lui remercier parce que tu as osé venir. Maintenant, tu es à genoux parce qu'il était à genoux. Lève-toi. Physiquement, c'est oui, tiens-toi debout. Mais lève-toi pour dire, ça veut dire monte à déchirant. Laisse la situation d'en bas que tu avais. Lève-toi, grandis-toi. Mais lève-toi, mais va. Ça veut dire que tu ne vas pas rester sur place. Va faire quelque chose. Tu ne te lèves pas pour rester debout. Tu te lèves pour aller faire quelque chose. Lève-toi, va faire quelque chose. Va annoncer ce que tu as reçu. Et nous voyons ce qu'il a dit. Ça veut dire va. Il faut comprendre dans le contexte de l'époque. La lèpre, c'était une maladie. Et c'est encore une maladie honteuse, même maintenant, malgré le progrès de la médecine. Les personnes qui étaient des lépreux, ce sont des personnes qui étaient considérées comme impures. Et on peut voir le mot impur aussi. Quand nous disons dans Matthieu 8, verset 2, nous voyons là-bas aussi la guérison d'un lépreux encore. Mais ça est un seul. Mais quand il le guérit, Jésus lui dit, les gens lui prédit, Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, ça veut dire qu'à cette époque, la lèpre, c'était quelqu'un qui est lépreux, c'était impur. Et la Bible lui dit, Jésus, tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui répond, oui, je le veux, sois pur. Ce que je veux ajouter ici, ce qui est à Matthieu et qui n'est pas ici dans Luc, c'est que après que Jésus ait guéri la lèpre de cette personne, il lui donne une instruction. Maintenant que tu es guéri, maintenant que tu vois, va, le même va bien ici, va chez le sacrificateur, donne l'offrande que Moïse a prescrit afin que ce soit un témoignage. Vous comprendrez pourquoi je suis en train de souligner ces mots. Quand il dit, ici, il dit à cette personne qui venait lui remercier, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et ce mot, c'est très important. Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'individu était déjà guéri de la lèpre. Quand il dit ta foi t'a sauvé, ça veut dire qu'en venant, en revenant, tu reçois plus que les autres. Les autres sont guéris, plutôt ils sont la lèpre est guérie. Mais toi, parce que tu es venu, parce que tu as rendu grâce, toi plus qu'eux, parce que ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que maintenant tu reçois le salut. Mais le salut est éternel. La guérison est momentanée. Mais le salut est éternel. Donc ça veut dire que en rendant grâce, à remercier à Dieu, nous avons plus que ce que nous avions. Ça veut dire que nous sommes sauvés. Nous avons le salut et le salut est éternel. Hein? Ceci montre, mes amis, l'importance de, oui, de l'action de grâce, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Je dis, ah oui. Et nous sommes en train de dire que Dieu nous aime et qu'il nous a tout donné. Quand nous voyons que, si nous disons que tout ce que nous possédons sur cette terre, des hommes, nous vient de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens 4, 7. Dans 1 Corinthiens 4, 7, c'est dit, mais qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça veut dire, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Ça veut dire que tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tout ce que tu as, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta santé, ça veut dire ta richesse, ça veut dire ton niveau d'instruction, ça veut dire ton renommée, ça veut dire le souffle de vie que tu as. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu l'as reçu. Ça veut dire que tu n'as rien fait pour l'avoir, tu l'as reçu gracieusement de Dieu. C'est ça que ça nous dit. Bon, maintenant, dans ce verset de 1 Corinthiens 4, 7, nous demande, maintenant, si tout ce que tu as, si tout ce que tu es, tu l'as reçu gracieusement, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te vantes-tu? Pourquoi te vantes-tu? Pourquoi tu crois que tu es quelqu'un d'extraordinaire? Je crois qu'on l'a vu aussi dans les louanges. Mais pourquoi est-ce que tu te plains? Hein? Pourquoi tu es, hein, avec cet égoïsme que tu as, par rapport à ce que tu possèdes, tu crois que tu es quelqu'un de très important. Mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour l'avoir. Tout ceci, je te l'ai donné, Dieu nous dit ça. Nous devons être reconnaissants de ce que nous avons reçu. Donc, et ceci nous montre que nous ne sommes que des gérants de ces bienfaits qui nous ont été confiés par Dieu. Qu'est-ce que c'est un gérant? De vous comprendre la différence entre un gérant et un propriétaire. Un gérant, on peut le changer très, très facilement et remplacer par quelqu'un d'autre. Mais le propriétaire de ce que nous avons, ce n'est pas nous. La maison que toi, ce n'est pas toi. Les voitures que toi, ce n'est pas toi. Parce que en venant sur cette terre, tu n'avais rien. Et en quittant cette terre, tu ne partiras avec rien. Parce que ce que toi, t'as été prêté gracieusement par Dieu. Nous devons comprendre, mes amis, comprendre cette idée, cette relativité des choses par rapport à ce que nous avons. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons dans ce monde des gens qui se glorifient, qui se disent, moi je suis un bon travailleur. Quand on voit des gens, dans ce monde, il y a des gens qui sont super riches, hein, qui ont des avions, qui ont des gratte-ciel à leur nom, comme celui de Trump sur les avions et les tours. Mais tout ça a été prêté. Ça a été prêté. Quelqu'un peut me dire, mais c'est mon argent. Moi, je l'ai conçu avec mon argent. J'ai acheté tout ça avec mon argent. Et cet argent, d'où vient-il? Tu vas dire, moi, j'ai travaillé pendant longtemps. Mais tu crois que toi, cela va travailler dur? Pourquoi les autres aussi qui travaillent dur, peut-être plus que toi, n'ont pas ce que tu as? C'est tout simplement parce que Dieu t'a fait grâce pour te donner ça. Je suis en train de, mes amis, de vous faire comprendre que cette notion de relativité des choses, de montrer que nous sommes devant Dieu qui nous donne tout, qui nous prête tout et auquel nous devons être reconnaissants. Et donc, nos biens ne sont pas le résultat de nos efforts, de nos stratégies, de nos capacités, de notre intelligence et de notre connaissance. C'est tout simplement une grâce que Dieu nous donne. Et nous devons le remercier de cette générosité. Nous devons être humbles. Ne soyez pas comme cet homme riche et insensé. Je sais pas si ça a été coupé là-bas. Et insensé. C'est cet homme de la Bible que vous connaissez. Cet homme qui était riche. Et pendant les récoltes, il voit qu'il avait beaucoup de récoltes. Et il s'assoit, il est en train de chanter, de dire, ah, je suis maintenant riche, j'ai beaucoup de récoltes, je vais changer les greniers que j'ai, et puis je vais construire plus grand. Mais Jésus, Dieu lui dit, mais mon ami, tu te trompes, parce que ce soir même. Oui, merci. Et donc, vous connaissez cet homme-là qui se glorifiait qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a beaucoup de récoltes, et que Dieu lui dit que ce soir même, il ne sera plus, parce que son âme lui sera retirée. Donc, pour nous montrer que nous n'avons aucune raison de nous vanter de tous les biens que nous avons. Prochaine dia. Parlant de remerciement, ça nous amène à parler de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? L'action de grâce, cet acte de remerciement, de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il fait gracieusement pour nous. C'est un acte volontaire et agréable à Dieu qui se manifeste par des chants, des prières, des sacrifices ou des offrandes. Dans l'action de grâce, quand je vous parlais tout à l'heure de cet aveugle que Jésus a envoyé au sacrificateur, pour que, c'est parce qu'à l'époque, quand il était lépreux, une fois guéri, il devait aller chez le sacrificateur parce que c'est lui qui devait certifier qu'il était guéri afin qu'il puisse retourner dans la communauté. Parce qu'étant lépreux, il était écarté de la communauté. Mais au Lévitique, je crois chapitre 12, on parle de nous donner toutes les recommandations qu'on devait faire pour une personne qui était lépreux. Mais on ajoute ceci. Parce que même Jésus lui demande à cette sœur de près que je vous ai parlé de Matthieu 8, il dit, maintenant, va chez le sacrificateur, afin que tu puisses donner l'offrande qui est prescrite par Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui était impur, il devait aller chez le sacrificateur. Et quand le sacrificateur certifiait que tu étais guéri, donc pur, tu devais offrir un sacrifice ou une offrande pour que la communauté sache réellement que tu es guéri. Et c'est ce que nous faisons maintenant comme témoignage. Et Jésus nous dit, pour que ça serve comme témoignage, parce qu'il fallait le faire dans le public et que les gens sachent que telle personne qui était lépreuse, maintenant, il est devenu pur, donc il peut revenir avec nous. C'est un acte de témoignage, mais aussi pour montrer que toi, tu étais cette situation et que toi, maintenant, changé. Bon. Et quand nous sommes en train de parler d'action de grâce, je ne vais pas y insister parce que le mois prochain, nous parlions d'action de grâce. Mais ce que je voudrais souligner aussi, c'est que dans l'action de grâce, il y a deux choses. Il y a le remerciement. Quand tu remercies le Seigneur pour un bienfait, une réponse à vos prières, c'est ce que nous faisons. Et nous l'avons vu la fois passée quand il y a eu des témoignages de nos collègues le mois passé. Mais il y a le remerciement de ce que Dieu nous fait, mais il y a aussi une reconnaissance. La reconnaissance, c'est plus fort qu'un remerciement. Parce que la reconnaissance, c'est une attitude, c'est le fait d'avoir un cœur reconnaissant pour tous les bienfaits que Dieu nous offre chaque jour dans notre vie. Oui, quand nous sommes dans une situation, nous sommes malades, nous avons prié, Dieu nous a guéris, nous cherchons du travail, nous avons prié, Dieu nous a donné du travail, on remercie Dieu. Mais la reconnaissance est plus forte que le remerciement tout court. La reconnaissance, c'est une attitude, c'est notre façon de vivre et de voir que non seulement ce que je demande, je reçois, mais aussi que toute ma vie, je reçois beaucoup de choses. Toute ma vie, oui, je grandis, c'est à cause de Dieu. J'ai de quoi m'habiller, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me vêtir. Tous ces bienfaits, je dois rendre, être reconnaissant envers Dieu parce que c'est lui qui m'a le fait. C'était pour éclaircir ce problème. L'autre, une question qu'on peut se poser, mais pourquoi rendre grâce alors? Pourquoi rendre grâce à Dieu? Nous trouvons la réponse dans 1 Thessaloniciens 5:18 pour dire que c'est un ordre. C'est un ordre du Seigneur qui nous dit que rendez grâce à Dieu car c'est à votre regard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que en fait c'est comme nous venons de revoir, si nous sommes conscients que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le sommes parce que c'est la grâce de Dieu, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu et parce que c'est ça la volonté de Dieu. On continue. Prochaine diapositive. Voilà. L'important, c'est de rendre grâce à Dieu. En fait, rendre grâce, c'est très important parce que nous voyons que même Jésus lui-même le faisait. Et si nous savons que nous sommes dans ce monde, dans un processus de sanctification, ça veut dire un processus où nous devons tout, malgré notre faiblesse, essayer d'imiter ce que Jésus faisait quand tu étais sur la terre. C'est ça la sanctification, de montrer que nous faisons tout pour que nous puissions imiter Jésus, parce que Jésus était parfait. Nous savons que nous ne serons jamais parfaits, mais nous voulons tendre vers ça. Et c'est ça le processus de sanctification. Et quand nous voyons que Jésus, dans sa vie, dans plus que toutes ses prières, il prononçait ce mot, parce qu'il disait, je rends grâce à mon Père. Je rends grâce à mon Père. Nous le voyons, on ne va pas le lire parce que c'est avec le suite d'Emmaüs, après être ressuscité, nous voyons la période de ses disciples qu'il a rencontrés dans le chemin qui va à Emmaüs et qu'il a accompagné, ils ont discuté de résurrection, de sa propre résurrection, mais il est allé avec eux, ils ont rencontré d'autres disciples qui restaient à la maison. Et ils ont mangé ensemble. Et il a pris du pain, il a rompu, et puis il a donné aux disciples qui étaient dans cette salle. Mais avant de le faire, il a rendu grâce. En fait, nous voyons dans la Bible que c'est le dernier mot qu'il a laissé à ses disciples avant l'ascension, hein, avant de retourner à son Père. Donc ça veut dire que c'est un ordre très important parce qu'il a rendu grâce. Une façon de lui montrer que dans tout ce qu'ils vont faire, ils doivent rendre grâce à Dieu. Nous le trouvons aussi dans la institutionnalisation de la Sainte Cène. La Sainte Cène aussi, vous voyez, nous le faisons chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, on le répète, Jésus prit du pain, après l'avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant ceci. Après, d'abord il mangeait, il prend du vin, après l'avoir rendu grâce, donnant à ses disciples, pour montrer que quand nous mangeons, quand nous buvons, bien sûr, nous devons penser dans la Sainte Cène, il voulait parler de son corps qui est livré pour eux et de son sang, mais aussi de nous dire, quand nous mangeons chez nous, quand nous avons de quoi manger chez nous, que nous ne devons pas oublier que si nous avons de quoi manger, si nous avons de quoi boire, oui, c'est Dieu qui nous donne ça. Il y a d'autres personnes autour de nous qui n'ont rien à manger. Et nous ne sommes pas plus justes, nous ne sommes pas plus méritants. Nous ne devons pas travailler plus qu'eux. Parce qu'il y en a qui veulent travailler, qui ne peuvent pas travailler. C'est parce que Dieu nous donne grâce. Et c'est pour cela que commencer à manger sans rendre grâce, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais en tout cas, Dieu n'aime pas ça. Nous devons rendre grâce, nous devons remercier. Et nous avons vu que l'action de grâce, c'est un processus de tout ce que. Le fait même de pouvoir exister ce jour, c'est aussi de faire un souffle de vie ce jour. C'est une action de grâce. Nous le voyons aussi devant la tombe de Lazare. Souvenez-vous de cette histoire. Jésus n'était pas là quand Lazare est mort. Et même quand tu lui as dit, ouais, on sait que Lazare était malade, il n'est pas venu. Il est venu après la mort de Lazare. Et puis, quand lui montrait la tombe de Lazare, il est allé. Et puis, avant de faire quoi que ce soit, c'est écrit dans Luc, puis dans Jean 11, verset 41. En fait, il rendit grâce à son père avant de demander qu'on ouvre la tombe. Ceci, je l'ai mis exprès parce que rendre grâce à Dieu, nous l'avons vu, c'est pour le remercier, c'est pour lui dire notre reconnaissance. Mais la Bible nous dit que de rendre grâce en toute chose, ça veut dire dans de bonnes choses et dans de mauvaises situations, parce que c'est en toutes circonstances. Et rendre grâce dans le malheur. Rendre grâce quand nous avons perdu quelqu'un de la famille. Rendre grâce quand nous avons perdu notre travail. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça que, ici, c'est ça que Jésus voulait montrer, que même dans le malheur, n'oublions pas que Lazare, c'était son grand ami. Même dans le malheur, il faut rendre grâce. Et ceci, pourquoi? Parce que nous avons dit que Jésus, plutôt Dieu, nous donne tout, y compris le souffle de vie. Et quand c'est lui qui donne, il peut le prendre. Et quand il le prend, nous devons rendre grâce à lui pour lui dire, Seigneur, tu avais donné, maintenant toi le prix. Ça, c'était une phrase que vous entendez toujours dans les cérémonies de funéraire. Oui. Bien. Jésus, Dieu a donné. Et Dieu a repris. Et nous verrons tout le temps dans cette présentation que c'est un processus de Dieu qui nous fait grâce, qui nous donne, mais qui peut reprendre. Mais il peut reprendre tout, y compris la vie. Parce qu'il peut nous donner la vie aussi. Ouais. Prochain dia, on va parler de voir l'importance de rendre grâce à Dieu. Nous avons vu que Jésus lui-même rendait grâce à Dieu dans ses prières, mais regardons aussi l'attitude des premiers chrétiens au début de l'Église. Et quand nous voyons, nous prenons l'Église primitive comme qui est venue, qui a été créée et mise en place après la mort de Jésus, après son ascension. Ah, c'est l'Église épiscopale, donc à partir des apôtres. Les apôtres étaient, dans Luc 24-53, nous voyons qu'après l'ascension de la Pentecôte, les disciples passaient leur temps d'attente dans la louange et dans l'adoration. C'est ce que Jésus leur avait demandé. Il dit, je m'en vais. Nous verrons ça au début du livre des Actes des Apôtres. Oui, je m'en vais, je vais chez mon père, mais restez ici, c'est à Jérusalem. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Hein? Hein? Et je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous donner la puissance, qui va vous donner la force et pour continuer mon œuvre. Donc, Jésus m'a dit, et la Bible nous dit qu'ils étaient là dans les 50 ans qui se sont passés, ensemble, en train de prier, dans l'adoration, dans la prière et dans l'action de louange. Et nous voyons donc que c'est pourquoi l'Église primitive a pu se développer rapidement. C'est parce que les gens étaient restés ensemble dans l'adoration, dans la louange et dans l'action de grâce. Et comme nous savons que pendant cette période, la vie n'était pas facile pour les disciples, parce que à ce moment-là, il y avait de la persécution, des tribulations, parce que c'est pour ça que les disciples sont cachés, mais en fait, ceci les a protégés parce qu'ils étaient ensemble, ils priaient ensemble et ils adoraient ensemble. Et prochaine dia, pendant toujours de cette importance de rendre grâce, nous voyons que l'action de grâce est nécessaire pour une prière efficace. Oui. Je souligne ici que l'action de grâce ne remplace pas la prière, mais elle l'accompagne. Quand nous disons merci à Dieu, ça, ce n'est pas une prière, mais ça doit renforcer notre prière. C'est pour cela que quand nous commençons à prier, nous disons merci mon Dieu, merci Seigneur parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est une sorte de dire je suis convaincu Seigneur, parce que tu as fait ça, parce que tu m'as gardé, parce que tu me donnes tout, tu peux aussi me donner autre chose que je suis en train de te demander. Donc cette assurance que nous avons vient du fait que dans l'action de grâce, nous sommes à nos connaissances et nous connaissons que Dieu est là, il veille sur nous et ça nous assure, cette action de grâce, ça nous permet de renforcer notre foi, ça nous permet de penser à tous les bienfaits que nous avons reçus et de maintenant d'avoir de l'espoir que d'autres choses que nous allons demander, nous allons avoir. Et dans le Philippiens 4 et 6, il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec. Ça veut dire que la prière de grâce doit venir toujours là pour renforcer nos prières. Ici, je voudrais souligner l'importance des témoignages. Les témoignages, c'est une action de grâce. Et l'important des témoignages, nous l'avons vu avec le témoignage de Clémentine et de Pierre la fois passée. Le témoignage, c'est très important parce que c'est une façon de dire à Dieu merci de ce que tu m'as fait. Mais aussi, c'est une façon de renforcer la foi des autres. Parce que les autres qui entendent ce que Dieu a fait pour toi, dans la circonstance où tu étais, leur foi est renforcée parce que s'il a fait à s'il a fait à Clémentine, s'il a fait à Pierre, s'il a fait à Antoine, il peut aussi le faire pour moi. Et ça renforce la foi des chrétiens. Et je voulais souligner quelque chose. La fois passée, quand il y avait ce témoignage de Pierre, il est là. Il a fait son témoignage et quand il partait, il retourne. J'ai bien regardé. Il prend son portefeuille dans la poche. Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu. Hein? Il prend son portefeuille dans la poche. C'était pour quoi faire? En fait, il fait une offrande d'action de grâce. C'est important de le faire parce que nous l'avons vu. Dieu a demandé à ceux lépreux d'aller chez le sacrificateur,
de faire et d'offrir le sacrifice d'action de grâce. Et c'est ça qui nous est demandé de faire, donc le sacrifice. Quand vous faites un témoignage, une action de grâce, c'est bien aussi de faire une action de grâce parce que ça vient de très loin. Et ça montre notre reconnaissance aussi de dire, oui Dieu, tu m'as tout donné. Si je prends quelque chose de moi, ça, c'est une offrande. Et nous savons que nous devons prendre l'offrande comme un sacrifice. Parce que l'offrande, c'est l'argent que nous avons, ou c'est quelque chose que nous avons. Et quand on le donne, ça doit être considéré comme un sacrifice. Dans le temps, c'était un sacrifice avec des animaux. Maintenant, on peut le faire avec de l'argent ou autre chose. Je voulais souligner cet aspect parce que ça m'a touché la fois passée, Pierre. Bon, nous allons, toujours parlant de cette importance de l'action de grâce, nous savons que Dieu nous fait beaucoup de choses. Dieu nous fait beaucoup de grâce. Ne pas le remercier, ça montre notre ingratitude. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez marcher dehors, au côté du métro, et que vous voyez ces personnes demandant, ils vous demandent quelque chose. Vous avez un peu d'argent, vous lui donnez. Il y a deux possibilités. Ou bien, il peut faire soit votre argent, mettez dans sa poche et continuez sans rien dire. L'autre possibilité, vous lui donnez plus d'argent que vous lui donnez et dit ah, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que ça vous dit quand vous donnez quelque chose à un mendiant, un peu importe le montant, et que le mendiant ne vous regarde même pas dans le visage et qu'il continue à marcher? Est-ce que vous avez vu? Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Vous sentez, vous avez, en fait, personne ne vous a obligé de lui donner quelque chose, mais vous avez bien voulu lui donner quelque chose. Mais ça montre de l'ingratitude. Dans l'ingratitude, cette personne qui ne dit même pas merci. Hein? Bon. Jésus aussi a eu la même chose. Jésus a eu la même chose. Quand il y a une seule personne qui vient et dit, mais est-ce qu'il n'y avait pas 10 personnes qui sont venues me voir? Ils ont été guéris. Et il y a une qui vient pour dire merci. Où sont les autres? Où sont les autres? Donc, ça, en d'autres mots, vraiment, les autres, les prêts sont ingrats. Hein? Ils n'osent même pas dire merci à moi. Pas de reconnaissance. Donc, nous aussi, ne pas remercier Dieu, c'est de notre ingratitude et Dieu n'aime pas ça. Bon, Dieu n'est pas content quand n'est pas content, il manifeste sa colère contre le manque de reconnaissance. Et nous voyons dans Romains 1, versets 18 et 21, nous voyons que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent justement la vérité captive. Mais pour montrer que Dieu n'est pas content que nous ne manifestons pas notre reconnaissance. Et nous avons vu que manifester notre action de grâce, c'est important pour Dieu, mais aussi c'est important pour les autres. Bon, Dieu en fait, peut-être ne pas, lui est tout puissant, mais notre gratitude, notre reconnaissance, quand nous le faisons en public, sans faire de témoignages, nous avons vu que ça peut aider les autres, et Dieu voudrait que nous ne gradions pas cette richesse d'avoir tout reçu de lui sans que nous puissions en faire en informer les autres, sans faire des témoignages, parce que ça construit la foi pour les autres. Comment alors? Comment rendre grâce à Dieu? Notre travail pour Dieu doit être accompagné d'actions de grâce. En fait, comment? La Bible nous dit que nous devons rendre continuellement grâce à Dieu et en tout temps et en tout lieu. Il y a trois choses. Continuellement, en tout temps et en tout lieu. Continuellement, ça veut dire que chaque jour, depuis que quand nous levons, que ce soit lundi, mardi, mercredi, c'est tout le temps qu'il faut le faire, en tout lieu, c'est partout. Ça veut dire chez moi, à la maison, au bureau, au travail, au marché, partout où je vais, je dois rendre grâce à Dieu. Et en tout temps, et en tout lieu, de façon continuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je me lève et que je peux marcher sur mes pieds, je dois dire merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Et j'avais un pasteur quand j'étais au Gabon. Chaque fois qu'il entrait dans sa voiture, il disait toujours merci, mon Dieu. Et chaque fois qu'il en sortait, il dit merci, mon Dieu. Et ça, il le faisait chaque fois que je voyais. Et à ce moment-là, moi, je ne comprenais pas, je n'étais pas très sensibilisé sur l'action de grâce. Mais je me suis dit, mais ce pasteur exagère. exagère parce que, mais entrer dans la voiture, sortir de la voiture, certainement que chez lui aussi, quand il est dans sa maison, il dit merci, mon Dieu. Mais justement, c'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. Parce que des fois, nous savons des choses et nous croyons que ce sont des acquis. Bon, dans le texte que nous avons lu, il y a un mot sur lequel je n'ai pas insisté. La personne qui est revenue pour remercier Dieu, c'est écrit, c'était un Samaritain. Pourquoi c'est souligné comme ça? C'était un Samaritain. Parce qu'un Samaritain, c'était un étranger par rapport aux autres qui étaient des Juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui étaient là, c'était des Juifs. Jésus était Juif. Ils se sont dit... la Bible nous dit qu'ils sont partis ensemble pour demander un service. Ils reçoivent le service, ils sont guéris. Ils partent. Les Juifs disent... Moi, je me dis dans ma tête, ils disent... Oh, Juif, Jésus, c'est notre frère. C'est notre frère. Il devait le faire. Nous, les Africains qui sont ici, comprennent ce mot de foi, où ton frère te dit, oh, quand tu gaspilles quelque chose, pourquoi tu as gaspillé ça? Mais tu es mon frère, non? Pour dire que c'est comme si je dis, j'ai le droit, parce que tu es mon frère, j'ai le droit d'avoir quelque chose de toi. Ce que tu m'as fait, ce n'est pas une grâce, c'est parce que c'est ton devoir de m'aider. Alors, là aussi, le fait qu'on a souligné, sinon on n'aurait pas Luc ne devait pas le mettre, s'il l'a mis, nous savons que dans la Bible, chaque mot a son importance. Et c'est pour ça que quand nous lisons la Bible, nous devons analyser la signification de chaque mot pour dire pourquoi est-ce qu'on a mis ça. On dit quand il la seule personne qui est venue dire merci, c'était un Samaritain, ça veut dire un étranger, ça veut dire que les autres considèrent ça comme acquis. Et c'est ce que nous voyons dans la vie. Ce que nous avons, nous croyons que c'est un acquis. Oui, j'ai ça parce que c'est dans la plantation de mon père, parce que c'est dans le magasin de mon père, parce que c'est dans l'usine de mon père. J'ai ça parce que j'ai fait mes études. J'ai ça parce que on se donne des raisons pour montrer que c'est un acquis. C'est pour ça que nous avons ça. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'acquis. C'est la grâce, c'est la bonté, c'est l'amour de Dieu envers nous qui nous fait ce que nous sommes. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Et l'action de grâce, c'est l'enfance et la foi pour les croyants. Ce sont les témoignages. Ça, nous avons vu l'importance des témoignages. Et c'est dommage qu'il n'y a pas aussi dans notre église assez de témoignages. Je crois qu'on devrait renforcer les opportunités, les occasions de parler de témoignages dans notre église. Parce que dans certaines autres églises, il y a presque chaque dimanche, on donne l'occasion. On donne l'occasion aux gens de s'exprimer, de dire, pas seulement attendre des événements spéciaux comme l'action de grâce ou autre, mais à chaque dimanche, que les gens parlent, que les gens s'expriment, que les gens puissent avoir l'opportunité de rendre grâce à Dieu, parce que c'est important, parce que ça renforce notre foi, et parce que aussi c'est l'ordre que nous avons reçu du Seigneur de rendre grâce. Donc, c'est ça le message que j'avais à vous dire, pour vous dire que pour Dieu, ne pas lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous, c'est de l'impiété, c'est de l'ingratitude, et que ça provoque sa colère. Ça se montre que c'est une obligation de rendre grâce à Dieu. En toutes circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter à Dieu des actions de grâce. Dieu nous a montré cet exemple de la résurrection de Lazare, mais nous aussi, nous savons que dans des situations difficiles, nous ne devons pas nous lamenter, nous ne devons pas quelquefois quand nous avons des difficultés, des problèmes, nous avons tendance à incriminer Dieu, à dire, mais Dieu, où est-ce que tu es? Dans mon pays, quand il y avait la guerre de génocide, des gens avaient cessé vraiment de croire en Dieu en disant, mais Dieu nous a oubliés. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu qu'on dit qu'il est là, qu'il nous a créés, qu'il nous aime? Maintenant, il nous laisse massacrer. Donc, les gens dans la difficulté ont tendance plutôt à se tourner de Dieu. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'en toutes circonstances, même dans les détresses, même dans les difficultés, nous devons continuer à rendre gloire à Dieu. Faisons donc attention, afin que le diable ne nous fasse pas oublier les bienfaits de notre Seigneur, que ce soit par notre ego, de savoir de croire que nous l'avons parce que nous l'avons mérité, mais de savoir que ce que nous savons, nous ne sommes que des gérants de ce que nous avons et que la propriété de Dieu, qui peut reprendre à tout moment tout ce que nous a donné. Alors, si nous faisons ça, nous verrons Dieu se manifester, manifester sa gloire dans notre vie. Mes chers amis, le message que j'avais, c'est de, oui, je que vous le saviez, mais de vous dire que le remercier Dieu, c'est très important. Que l'action de grâce, c'est très important. Que ce que nous avons nous est prêté, nous sommes des gérants. Et que à tout moment, à chaque instant, en tout lieu et continuellement, nous devons continuer à rendre grâce à Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ton message. Merci de tout ce que tu nous fais, Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous rendons compte que nous ne sommes rien. Nous nous rendons compte que nous avons besoin de tout. Nous nous rendons compte que tout ce que nous avons nous est prêté par toi, Seigneur. Oui, notre vie, notre intelligence, notre richesse, notre vie même, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes. Merci de nous donner ce souffle de vie qui fait que nous sommes là. Seigneur, nous voulons te demander de continuer à nous faire comprendre ce que tu es, à nous faire montrer ce que tu fais pour nous, Seigneur, à ouvrir nos yeux, Seigneur. Seigneur, merci pour ton message. Nous ne voulons pas être ingrats, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants envers toi. Mais nous voulons aussi que notre reconnaissance, notre façon de vivre, nos œuvres, nos paroles, nos prières, reflètent cet aspect de toi, Seigneur. Et que les gens qui nous entourent, les gens qui nous voient, qui nous voient en nous et qui croient en toi à cause de nous, à cause de nos témoignages, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Continue à nous protéger. Continue à prendre soin de nous, Seigneur. Continue à nous donner de quoi manger. Continue à nous donner de quoi nous vêtir. Continue à nous protéger. Merci, Seigneur. Nous te sommes et nous te serons toujours reconnaissants. Nous avons prié en ton Fils Jésus-Christ. Amen.